Alors, mon message de ce matin s'intitule « Dieu transforme la vie d'une maman » et c'est tiré d'une vraiment belle histoire dans l'Ancien Testament. Alors, c'est relié à la fête des mères, encore une fois, joyeuse fête des mères. Et ce matin, on veut, d'une manière spéciale, vous encourager, vous, les mamans, dans votre foi. Mais vous allez voir que le message, en réalité, s'applique à tous les croyants et toutes les croyantes. Pas juste aux mamans, mais bien, on va voir que c'est l'histoire d'une maman qui, dans sa situation de maman, met sa foi en action. Puis, il faut toujours mettre le focus, quand on lit la Bible, pas juste sur les humains qui sont des héros de la foi, bien que c'est le cas ici, mais sur Dieu surtout, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui est tellement généreux, vous allez voir, envers son enfant. Il est tellement extravagant dans sa générosité envers nous, des fois, que quand ça arrive, nos mains ne sont pas assez grandes pour tout recevoir, mais ce n'est pas grave, on en reçoit assez, puis on en est béni. Et ici, ce n'est pas juste les mains, vous allez voir, c'est aussi les contenants que la madame trouve à droite et à gauche pour recevoir la grâce de Dieu. Et ces situations de grâce généreuse, extravagante, presque exagérée de Dieu, nous encouragent dans notre foi, mais ça fait grandir notre foi. Alors, j'espère que chacun de nous, on va être dans l'expectative que on a un Dieu généreux, un Dieu qui aime nous bénir avec sa générosité et que ça nous permet de marcher avec confiance dans la vie, mais aussi avec générosité, en prenant des fois aussi des risques. Et moi, je me suis souvenu, avec ce passage, avec ce thème, je me suis souvenu d'une situation dans ma vie où j'ai été l'objet d'une générosité surprenante et extravagante de Dieu. Puis je vais vous raconter cette histoire. Alors, à l'époque, je travaillais pour les GBUC, les groupes bibliques, universitaires et collégiaux, une mission d'évangélisation et de formation de futurs leaders sur les campus universitaires et cégep. Et j'allais, avec l'équipe GBUC, j'allais à tous les trois ans à la conférence Urbana. Ça, c'était aux États-Unis, ça l'est encore. C'était à tous les trois ans, une conférence missionnaire pour les étudiants. Les étudiants qui sont aux études, peut-être arrivent vers la fin de leurs études et puis sont confrontés à l'appel « Allez, faites de toutes les nations des disciples, et simplement, soyez des témoins dans votre carrière. Mettez la mission de Dieu en premier dans votre carrière que vous allez commencer. » Vraiment une belle conférence, et à cette époque-là, la conférence accueillait à chaque fois entre 15 000 et 20 000 délégués. C'était capotant, c'était tellement le fun. Il y avait des Américains, il y avait des Canadiens, il y avait des Québécois et il y avait aussi des internationaux, des gens qui venaient d'outre-mer. Puis à chaque fois, nous, notre petite équipe québécoise, on organisait une réception informelle pour présenter les besoins du Québec. Puis en général, c'était une petite réception. On offrait un repas gratuit et même à ça, peu de gens venaient à notre réception. Alors, à tous les trois ans, on la faisait, puis on accueillait entre 15 et 25 invités. C'était modeste. Et il y avait de l'intérêt pour le Québec, mais on remarquait que, bon, les gens qui étudiaient, par exemple, le français à l'université, à Boston ou à San Diego, ou que sais-je, bien, ils étaient plus intéressés quand on leur parlait de la France ou de la Belgique ou de l'Afrique francophone ou bien de la Martinique ou les Antilles françaises.
La Guadeloupe aussi.
Oui, absolument. Hein?
Tahiti aussi.
Tahiti, exactement. Le Québec, c'était, comme on dit en anglais, un hard sell. C'était plus dur à vendre. Pourtant, c'est tellement intéressant, le Québec. Et puis, c'est plus proche. Et alors, comme je vous disais, on accueillait des petits groupes et c'était toujours du bon temps. On avait un petit repas. On parlait du Québec, on parlait français avec du monde qui apprenait le français. On collectait leurs noms, leurs courriels. On gardait leurs adresses. On gardait contact et il y en a qui sont venus faire des stages avec nous. Mais on priait qu'on pourrait avoir plus de monde. On se disait, franchement, on aimerait ça avoir plus de monde. Et est-ce qu'on y croyait à notre prière? Peut-être plus ou moins, parce que cette année-là, même qu'on avait prié, on s'était contenté de réserver une salle petite pour notre dîner québécois. Et on avait prévu une quantité modeste de nourriture gratuite, comme les autres fois. Mais cette année-là, puis je ne me souviens pas de la date, mais ça ne fait pas si longtemps, le conférencier principal du Congrès, qui s'appelle Ramez Atala, et c'était un missionnaire qui était devenu très connu en Égypte à cause d'un travail extraordinaire qu'il fait là-bas. Mais c'est quelqu'un qui avait déjà habité au Québec. Il avait appris qu'on faisait une réception québécoise. Et à la fin d'un de ses enseignements, dans une séance plénière, là, devant 17 000 personnes, à la fin, c'était la fin de la matinée, il dit « Il faut que j'arrête maintenant de parler parce que c'est l'heure du dîner. Je dois me rendre à la réception des GBUC québécois. » Puis il donne le numéro du local dans tel hôtel. Ils disent qu'ils vont avoir de la pizza gratuite, puis c'est un groupe vraiment intéressant, ils sont sympathiques, et ça va être vraiment le fun. Donc, faut que j'y aille, on va prier. Voilà, donc, sur le coup, j'ai pas réalisé ce qui se passait. J'ai dit, ah, c'est le fun, il nous mentionne devant tout le monde, il va venir, waouh, c'est le fun! Alors, mais ce qui est arrivé, c'est à cause de cette remarque imprévu par les humains, sauf peut-être par lui, et peut-être à cause de nos faibles prières, Dieu, dans sa grande générosité, nous a exaucés vraiment bien au-delà de ce qu'on avait espéré ou demandé. Selon Éphésiens 3:20, la salle s'est vite remplie de jeunes qui avaient faim et qui s'attendaient à avoir du fun avec des Québécois, puis on a fait tout notre possible pour leur donner. Mais quand même, au début de cette petite réception, une de mes collègues, Cécile, elle vient me parler, elle vient me prendre à part. Elle dit, Marc, on a un gros, gros problème. J'ai dit, ben quoi? C'est le fun, regarde. Elle dit, Marc, viens avec moi regarder dans le couloir à l'extérieur du local. Elle m'ouvre la porte, je regarde. Les étudiants étaient dans deux files jusqu'à l'infini, on aurait dit. Ils tapissaient les murs du couloir de l'hôtel jusqu'à perte de vue. Qui attendaient de rentrer. On espérait, on a pensé peut-être 200, plus que 200 peut-être même, personnes qui sont venues finalement à notre réception. Et c'est vrai qu'on a eu du fun et de très bonnes conversations sur le Québec et les besoins. Et des nouveaux contacts en masse. Mais sur le coup, on avait un gros problème. Comment les accueillir? On a dû courir à la réception de l'hôtel pour trouver une nouvelle salle, pour payer pour cette nouvelle salle, commander une tonne de pizza, une tonne de frites avec des ailes de poulet et des boissons gazeuses. Et on est remonté dans la foi. À un moment donné, je reçois un appel sur mon cell. Le restaurant de l'hôtel n'est pas capable de fournir. Fait qu'il a fallu qu'on appelle deux pizzerias locales et commander d'autres. Puis tout ça, j'ai fait ça sur ma carte de crédit personnelle. Mais je sentais que j'étais comme dans une parabole de l'Évangile. Comment qu'on va nourrir la foule? J'ai dit, j'y vais par la foi. On a payé. Et on a eu vraiment une belle fête. Avec une carte de crédit, on peut faire avancer les choses, mais Dieu a pourvu. Non seulement on a eu assez de nourriture, et puis c'est vrai qu'il fallait que le groupe se relaye. Il y a eu des gens qui ont dû partir pour que d'autres rentrent, malgré qu'on avait une plus grande salle. Mais c'était vraiment un bon temps. On a eu vraiment du fun. Et le conseil d'administration de l'organisation, qui était vraiment tellement content de cet intérêt soudain pour le Québec. Mais ce n'est pas grave comment les choses se passent. Ils ont accepté de tout rembourser. Ils étaient vraiment juste contents du bon coup, mais c'est vraiment le Seigneur qui l'a fait, pas nous. Le plus drôle là-dedans, c'est que le conférencier n'est même pas venu. Alors, des fois dans la vie, le Seigneur nous montre d'une manière concrète et immédiate comment que son cœur est un cœur de générosité extravagante et surprenante. Il y a des moments dans la vie où on le voit plus clairement que d'autres, et il faut le célébrer, mais le cœur de Dieu est toujours là, à côté de nous. Dieu ne change pas. Et ce qu'il faut en tant que chrétienne, en tant que chrétien, en tant que maman, il faut garder une vision juste de Dieu. Ne pas laisser les circonstances te dire, bien, je vais baisser ma vision de Dieu. Non, les Écritures nous donnent une vision vraiment infiniment élevée de Dieu et il faut rester ferme là-dedans. Et il y aura des moments où il faut patienter et d'autres moments, et pour les mamans et les papas aussi, où on doit persévérer dans la foi. Alors, arrivons maintenant à notre histoire d'une maman qui met sa foi en action et Dieu vient à sa rencontre. Ceux qui veulent suivre dans votre Bible, c'est dans l'Ancien Testament, 2 Rois, chapitre 4, un court épisode, les 7 premiers versets, 2 Rois, chapitre 4. Mais vous pouvez suivre à l'écran. Une femme de la communauté des prophètes cria à Élisée, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais qu'il craignait l'Éternel. » Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et faire d'eux des esclaves. Et Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'est-ce que tu as chez toi? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout chez elle, mis à part un pot d'huile. » C'est une période de sécheresse, de grande pauvreté en Israël. Il dit, Élisée qui parle, « Va demander des vases dans la rue, chez tous tes voisins, des récipients vides, demande-en en grand nombre. » Une fois rentrée, ferme la porte derrière toi avec tes enfants, verse de l'huile dans tous ces récipients et mets de côté ceux qui sont pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte derrière elle et ses enfants, qui lui présentaient les récipients, et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, elle dit à son fils, « Donne-moi encore un récipient. » Et il lui répondit, « Bien, il n'y en a plus. » L'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu qui lui dit, « Maintenant, va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras. Et avec tes fils aussi. Et tu vivras de ce qui restera aussi. » Ô Seigneur, incruste ta parole dans nos cœurs ce matin. et fait travailler notre imagination et notre foi par elle. Amen. Alors, le message d'aujourd'hui, quand Dieu te demande de mettre ta foi en action, y compris dans des situations désespérées, et que tu lui obéis, il prend plaisir à te bénir avec sa générosité. OK, donc ça, si tu es une maman et que tu travailles fort dans ton rôle de maman, ou que tu sois un chrétien ou un enfant ou un grand, tu vas avoir des situations où ça va être utile. Quand Dieu te demande de mettre ta foi en action, même dans une situation désespérée, obéis, parce que quand tu vas obéir, il prend plaisir à te bénir avec sa générosité. Parce que c'est un Dieu qui prend plaisir à être généreux. Alors, dans la Bible, les mamans, c'est souvent les héroïnes de la foi. Elles sont régulièrement présentées comme des exemples de foi active. Parce qu'elles sont, d'une part, vulnérables. On pense à Marie, la mère de Jésus. On pense à Anne. On pense à la veuve de Sarepta, Agar, la mère d'Ismaël, et bien d'autres. Ce sont des femmes qui vivent dans un monde où le pouvoir est entre les mains des hommes. Donc, il faut qu'elles apprennent à naviguer là-dedans. Mais en plus, c'est elles qui doivent vivre le risque, prendre le risque de mettre un enfant au monde, dans ce monde-là, avec des ressources limitées où le pouvoir est entre les mains souvent des hommes, pas de elles, des riches, pas des pauvres. Avec chaque enfant qui naît, la pression des situations économiques augmente. La dégradation des situations de vie augmente. Ton mari tombe malade ou une sécheresse, une famine arrive. Les femmes sont vulnérables, comme j'ai dit, elles ont des enfants dépendants. Donc, c'est souvent elles qui sont appelées d'une manière toute spéciale à vivre par la foi. Puis, c'est encore le cas aujourd'hui. Puis quand ces femmes-là se tournent vers Dieu et mettent leur foi en action, elles deviennent des héroïnes de la foi. Et puis Dieu décide, ben, on va raconter ce qui leur est arrivé dans l'Écriture sainte pour tous les enfants de Dieu de tous les temps. Puis c'est ce qui est arrivé à la maman dans notre épisode. Elle vit une situation vraiment désespérée et troublante pour sa foi, mais aussi... Je ne sais pas quel adjectif utiliser au niveau de son cœur de maman, dévastatrice pour son cœur de maman. Elle était mariée à un prophète, servait Dieu dans une communauté de prophètes qui était un peu en apprentissage avec Élisée, et il y avait sans doute plusieurs groupes comme ça dans Israël. Puis il y avait comme le prophète principal qui était l'enseignant Élisée, qui était le successeur d'Élie. Elle était mariée à un des prophètes. Il servait Dieu, il servait sa parole fidèlement et courageusement dans une période où Israël s'éloignait de Dieu, où l'injustice fleurissait et où les famines sévissaient et malheureusement rendaient les gens encore plus méchants les uns envers les autres. Et nous vivons dans un monde où, et une période du monde où malheureusement, on sent ça des fois, la situation devient plus difficile économiquement. Et il y en a parmi les humains qui disent, on va s'entraider, on va utiliser les nouvelles technologies pour s'entraider. Mais malheureusement, il y a toujours ce réflexe des humains. On va se battre pour garder les ressources pour nous. On pense à cette crise qu'on a vécue de la pandémie. Et puis, au départ, les gouvernements du monde entier ont dit, on va partager la production énorme qu'on prévoit des vaccins. Bien, quand il y en avait des vaccins, est-ce que le partage s'est fait d'une manière équitable? Non, pas du tout. Les pays riches ont gardé pour eux. Et imaginez-vous qu'en Israël, et c'était comme ça. Cette femme, cette famille prophétique était pauvre. Et eux, ils ont dû emprunter de l'argent à un créancier vraiment sans cœur. Hein, on pense même à la ville de Montréal, ici. Il y a parfois les gens qui s'enrichissent. Et je ne dis pas tous les propriétaires d'appartements, mais plusieurs d'entre eux, ce sont des gens qui s'enrichissent et qui peuvent être vraiment sans cœur. Au moins, la coop ici, c'est une propriété partagée. Mais ailleurs, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème à la coop, mais je dis qu'ailleurs, il peut y avoir des propriétaires, leur seul intérêt, c'est de s'enrichir aux dépens de gens pauvres qui louent. Et voilà que ce créancier, ce prêteur en Israël, était sans cœur. Le mari prophète meurt et la maman, qui a deux garçons, devient veuve. Comment est-ce qu'elle va rembourser la dette? Elle n'a pas de revenus, elle. Le créancier, il a une idée inhumaine pour s'enrichir. Je vais prendre les enfants et je vais les revendre comme des esclaves. Il va prendre les deux garçons. Imaginez, pour une maman, c'est tout ce qui lui reste, à part un pot d'huile, un petit pot d'huile, ses enfants. Alors, la traite des enfants, en réalité, quand on lit la loi de Dieu pour Israël au complet, on voit que c'est pas permis. Il y avait des situations où l'esclavage était permis, mais c'était balisé par des lois de Dieu qui étaient humanisantes, mais prendre des enfants comme ça pour les revendre, c'était pas permis. Mais ce créancier, il s'en foutait. Puis, à l'époque, il y avait des rois injustes. Je pense que c'était à l'époque d'Ahab, qui était un roi qui n'était pas un bon roi. Mais on voit que cette maman a une foi profonde. Et elle fait un premier pas de foi en allant vers le prophète Élisée pour crier son désespoir. Déjà, c'est un premier pas de foi. Elle vient crier son désespoir à l'homme de Dieu. Puis l'homme de Dieu, c'est un peu comme le temple dans l'Israël du Nord. Elle va là où Dieu est et elle crie son désespoir parce qu'elle a la foi. Et dans son cri, elle exprime sa haute estime pour Dieu. Comme je vous ai dit, nous, des fois, on se laisse aller à « ben, je vais diminuer ma vision de Dieu ». Elle garde une haute vision de Dieu et elle dit « mon mari et moi, on a servi Dieu fidèlement. Tu en as été témoin, Élisée, parce que tu connais mon mari. Tu me connais aussi. Maintenant, c'est intolérable pour moi que je perde mes enfants. Ça n'a pas de sens en tant que maman, mais aussi à cause du Dieu que nous avons. » Et ça, c'est une des choses que le conférencier nous a dit vendredi soir. Et pour ceux qui étaient là sur Zoom, il nous a rappelé le Dieu d'Israël, qui est le Dieu des chrétiens, a à cœur l'honneur de son propre nom et va intervenir des fois dans nos vies, pas juste pour nous aider, nous, mais peut-être encore plus pour que son nom soit honoré parce qu'il est, tel qu'il est, et c'est en le connaissant vraiment aussi que les humains deviennent des enfants de Dieu. Alors, C'est intolérable pour Dieu que ce créancier fasse ce qu'il veut faire. Dieu va répondre à la foi de cette maman. Je n'ai pas beaucoup de temps pour parler d'Élisée, mais Élisée, c'est un personnage très spécial dans l'Ancien Testament qui représente Jésus-Christ, plus même que son prédécesseur Élie, qui est aussi quelqu'un qui nous fait penser à Jésus dans le genre de miracle qu'il fait. Élisée, encore beaucoup plus. C'est comme l'explosion de la grâce, l'explosion de la générosité de Dieu avec Élisée, puis il est comme le type, il est comme l'anticipation de Jésus. En fait, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, mais il y a peut-être 2-3 ans, on a eu un message ici sur un autre miracle d'Élisée. C'était Daniel Marino qui avait apporté ce message-là. Je pense que j'ai vu Daniel ce matin. Es-tu encore ici? Il vient de partir. Ah! Je voulais lui faire un clin d'œil, mais ce n'est pas grave. Daniel nous a parlé d'un autre miracle d'Élisée où est-ce qu'il y a un prophète qui est en train de hacher du bois proche de la rivière Jourdain, puis son fer de hache part. Il était mal fixé, part dans la rivière, dans le fleuve, le fleuve Jourdain. Et il dit, bien, c'est une hache empruntée. Et Élisée coupe une poutre de bois, la jette au-dessus du fer de hache qui est au fond, et miraculeusement, le fer de hache remonte. Et c'est une image du salut de Jésus-Christ. Cette poutre, c'est la croix de Christ en type qui fait remonter hors du péché l'être humain englouti et qui lui donne une nouvelle existence. 2 Rois 6:1-7. Et plusieurs fois avec Élisée, on voit que c'est comme une prémonition de choses que Jésus va rendre réelles par sa mort et sa résurrection. OK. Parlons maintenant de la foi de la femme. Je vais rapidement énumérer comment elle a mis sa foi en action, parce que c'est un modèle pour nous. Comme j'ai dit, sa décision d'aller vers le prophète avec son désespoir, plutôt que d'aller s'isoler et d'abandonner la foi. Deuxièmement, son cri de désespoir, comme j'ai dit, qui contient une haute vision de Dieu. Troisièmement, elle est prête à mettre en œuvre ses propres ressources. Elle aurait pu répondre à Élisée, « Ben, t'as quoi chez toi? » Drôle de question, mais elle sent que Élisée veut mobiliser les ressources de la madame elle-même, et elle répond pas, « Mais j'ai rien. » Elle dit, « J'ai un pot, puis il est rempli d'huile. » C'est tout ce que j'ai. Elle est prête à mettre à disposition. Ensuite, elle obéit de manière immédiate aux instructions du prophète. Elle aurait pu lui dire, c'est donc bizarre ton plan. Pourquoi on ne ferait pas une collecte avec les prophètes à la place? C'est bien plus comme normal. Ou bien, peut-être, viens avec moi, on va aller se plaindre aux autorités concernant ce créancier qui enfreint la loi. Non, elle fait juste obéir. Ça, c'est beau à voir. Elle obéit immédiatement. Et elle implique ses voisins. Puis je trouve qu'elle a du guts. Parce que à cette époque-là, ça n'existait pas le Tupperware. Elle ne va pas frapper aux portes en disant, bon, le prophète m'a demandé de faire quelque chose de fou. Pouvez-vous me donner des récipients en plastique? Non, c'était des vases en terre cuite. Ça coûtait cher. Mais elle le fait. Et non seulement est-ce qu'elle implique ses voisins, mais j'aime aussi qu'elle va frapper aux portes. J'aime aussi qu'elle, dans cette espèce de multiplication de l'huile, en privé dans la maison, ces deux garçons sont impliqués dans le ministère. Ça aussi, ça nous ramène à la relève, ça nous ramène à l'idée, il faut que nos jeunes fassent du ministère avec nous. Il faut qu'ils prient avec nous. Il faut que quand on invite du monde chez nous, que les enfants viennent à la table pour parler des choses de Dieu. Il faut que les enfants soient impliqués. Et j'aime ça qu'on a des jeunes qui viennent remplacer les vieux dans le band du dimanche matin. C'est merveilleux. J'ai cru entendre un applaudissement. Oui, c'est ça. Puis elle retourne au prophète, même après le miracle. Plus important encore, comme j'ai dit au début, la générosité de notre Dieu. Quand on lit la Bible, les histoires de la Bible, n'oubliez pas, il y a toujours un personnage, il est parfois invisible, mais c'est toujours le personnage principal, c'est Dieu. Donc, qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans l'histoire? Et ici, waouh! Il est toujours là avec des ressources infinies, même dans une famine. Deuxièmement, à travers l'humanité de la réponse d'Élisée, on voit la compassion de Dieu. Ensuite, Dieu ne se limite pas juste à donner, il implique la dame, la dame désespérée dans la solution. Il la met en action. Hein, on va parler de ça des fois avec l'idée de quand nous aussi, on fait de l'entraide au nom de Jésus dans le quartier, on implique les gens. C'est pour ça que, et il y a peut-être des personnes ici qui l'ont vécu, Mimi, quand elle organise un déplacement de meubles, elle va dire, y a-t-il quelqu'un dans la maison qui peut aider? Et c'est un peu ce que Dieu fait par Élie ici. Qu'est-ce que tu as à disposition? Et il y a le pot d'huile. Ensuite, il lui dit, va vers tes voisins, frappe aux portes. Il implique les enfants aussi. Il va impliquer les voisins et même le créancier. Le créancier va être témoin de ce que Dieu est en train de faire. Le méchant créancier. Attends. Non. Comment on fait pour... Ah oui, c'est bon. Je pense qu'il va rester. Dieu pourvoit non seulement pour payer la dette, mais en plus, pouvoir vivre après. Avez-vous remarqué ce détail-là? Il y a de l'argent en plus. Mais justement, ça nous amène à un autre aspect. Dieu agit en proportion de la foi. Pas toujours. Des fois, on a une toute petite foi, puis il décide de nous bombarder de bonté. Comme ça m'est arrivé avec cette foule aux États-Unis. Mais ici, il y a le principe, « Wow, je te demande la foi. » Il parle à cette femme. « Tu as démontré beaucoup de foi et en conséquence, je vais te donner beaucoup d'huile. » On est toujours béni quand Dieu répond à nos prières, mais ici, on voit que c'est en proportion de la foi. Jésus a dit ça à certaines personnes, « Qu'il te soit fait en proportion de ta foi. » Parce que quand Élisée lui dit, « Vas-y, frappe aux portes, demande des vases à tes voisins, puis demande-en beaucoup. » Mais l'expression en hébreu, si je pouvais traduire ça en québécois, c'est « mets le paquet ». C'est ça que Élisée dit à la femme, « Quand tu vas frapper aux portes, mets le paquet. » Puis ça, en québécois, ça veut dire « ne te retiens pas ». Et on sent par ce qui se passe, elle est vraiment allée chercher beaucoup de récipients avec ses deux garçons. Elle a fait une campagne de frapper aux portes, une grosse campagne. Et en conséquence, elle a eu de l'huile jusqu'à temps que le dernier pot donné était rempli. lorsque toi, tu vas être dans une situation semblable, si c'est toi la femme, combien de vases est-ce que tu vas aller chercher? Combien de vases vas-tu collecter? C'est une image. Autrement dit, quand Dieu va te demander de mettre ta foi en action, est-ce que tu vas te retenir ou est-ce que tu vas y aller à fond? Ça peut être des vases, comme ça peut être dans un ministère dans l'Église. Si tu sens que Dieu te demande de faire quelque chose, est-ce que tu vas y aller avec prudence et en te protégeant toi-même? Ou est-ce que tu vas y aller, oui, avec sagesse, mais avec beaucoup de générosité parce que tu as confiance dans le Dieu généreux? C'est l'heure de conclure. Quand Dieu te demande de mettre en action ta foi, même dans une situation désespérée, et que tu lui obéis, sache que tu as un Dieu qui prend plaisir à te bénir avec sa générosité. Amen.